Et ce grand parcours aujourd'hui nous mène au chapitre 13, versets 22 à 14, versets 24. Donc une bonne portion de l'évangile qu'on va parcourir aujourd'hui et qui contient justement cette phrase qui dit que certains seront les premiers, d'autres les premiers seront les derniers seront les premiers. Et j'aimerais en reparler avec vous aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre le contexte de ce passage que l'on veut parcourir ensemble, je vous rappelle les trois grandes parties de Luc. Une première partie qui va jusqu'au chapitre 9, verset 50, qui insiste sur la préparation de Jésus pour son ministère. L'objectif de Luc principal, c'est de montrer que Jésus est à la fois pleinement homme et en même temps pleinement Dieu. Jésus est Dieu incarné dans une nature humaine. Et dans toute cette première partie de Luc 1 à 9, on voit les caractéristiques de Jésus qui est pleinement homme et pleinement Dieu. À partir du verset 51 jusqu'à 19-27, l'insistance porte sur le voyage vers Jérusalem. Et on voit tout plein d'instructions qui portent sur la question du royaume de Dieu. Et enfin, à partir du chapitre 19-28 jusqu'à la fin, il est question du ministère de Jésus avec sa crucifixion et sa résurrection. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie centrale sur le voyage vers Jérusalem. Dans cette partie centrale, on commence avec le verset 51 du chapitre 9. Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il prend son bâton et il commence sa marche vers Jérusalem. Et justement, le verset par lequel commence notre passage ce matin dit « Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem ». L'auteur prend donc la peine, Luc prend donc la peine de nous rappeler l'importance de ce voyage vers Jérusalem et quelque part de nous montrer comment Jésus met à profit ce voyage vers Jérusalem pour apprendre plein de choses aux personnes qu'il côtoie. Il y a un deuxième élément de contexte qui est essentiel pour bien appréhender notre passage. Il est encadré par ces deux affirmations. Luc 9, 23, Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et verset 27 du chapitre 14, on retrouve cette phrase, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Suivre Jésus nécessite donc un renoncement. Vous gardez ces éléments de contexte dans un coin de votre tête, et voilà ce que contient le passage qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un passage qui est encadré par deux paraboles. Il y a une première parabole, versets 23 à 30, qui est la parabole de la porte étroite. Et puis, le dernier passage est la parabole du festin céleste, un magnifique festin organisé par un maître dont les invités ne veulent pas venir, ils ont mieux à faire. Et puis, entre les deux, on trouve, versets 31 à 35, le sort à venir de Jérusalem, 1 à 6, une guérison qui est effectuée le jour du sabbat, et puis 7 à 24, des conseils pour participer à un festin. Alors, ce qui est en jaune, c'est ce sur quoi je veux m'arrêter plus posément, et puis je ne m'arrêterai pas sur ce qui est en blanc. Pour une raison simple, c'est que si on se lance dans chaque détail de ce texte, on y passe la semaine. Et je vous assure qu'on en oublierait même de manger tellement c'est passionnant et c'est assez extraordinaire comme passage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord cette première parabole, la parabole de la porte étroite, et je vous propose de la lire. Quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. » Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Alors, qu'est-ce que cette porte étroite dont il est question dans ce passage ? Pour le comprendre, il est question d'un maître de maison qui a certainement une belle maison et qui a un objectif, c'est que les personnes qui sont avec lui se mettent à table avec lui. C'est ce qu'on voit au verset 29. Et c'est une image du royaume de Dieu, parce qu'il est question de se mettre à table dans le royaume de Dieu. Donc cette image de la maison est là pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu. Or, cette entrée dans cette maison, et donc l'entrée dans le royaume, est difficile. Pourquoi ? Si on regarde les détails de ce texte, on voit que pour rentrer par cette porte, il faut s'efforcer. Il faut, c'est pas réservé à tout le monde de rentrer. Beaucoup chercheront à rentrer et ne pourront pas. Il est question aussi que certains frappent à la porte et puis non, c'est trop tard, elle est fermée. Pour d'autres, ils sont si proches de rentrer, mais ils sont pas à l'intérieur. Et puis, il y a aussi un autre critère qui est assez clair. Vous qui commettez l'injustice, ce n'est pas possible de rentrer à l'intérieur. Autrement dit, cette porte étroite montre bien que c'est une porte dans laquelle on peut passer, mais uniquement à certaines conditions qui sont compliquées à remplir. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui font qu'on ne rentre pas dans cette porte. Alors, quelles sont ces choses et comment le comprendre ? Dans le contexte, Jésus s'adresse à un public de religion juive qui considère que être né juif, faire partie du peuple d'Israël, c'est être dans la maison, c'est être dans le royaume. Et ce que Jésus est en train d'expliquer ici à son auditoire, c'est que non, ça ne suffit pas d'être né juif, d'être né dans le peuple de Dieu pour pouvoir entrer dans la maison. L'image peut être bien sûr transposée à nous aujourd'hui, à savoir que c'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que pour autant cela fait de moi un chrétien. La réalité, c'est qu'il est nécessaire pour chacun de passer par la porte étroite. Et là, Jésus réalise un tour de force assez énorme, parce que il y a au départ une question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés. Et en fait, il répond pas non, il détourne un peu la question, il va sur cette métaphore de la maison avec une porte étroite, et puis il surprend son auditoire qui s'attendait à dire, bah oui, les juifs sont sauvés, et puis les non-juifs, bah non, ils ne sont pas sauvés. Or, comment est-ce qu'il finit l'histoire ? Il se lève, ferme la porte, il éloigne ceux qui ne connaît pas. Et puis, il rappelle que dans la maison, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, donc il y a bien des juifs, tous les prophètes, mais qu'il y aura aussi des personnes qui viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Autrement dit, il explique que cette entrée dans le royaume et l'accès au salut va s'ouvrir à toutes les nations et n'est plus réservé uniquement aux juifs. Et l'entrée dans ce peuple de Dieu ne se fait plus par naissance, mais se fait par un changement radical du cœur. Quel est ce changement radical du cœur ? J'ai lu cette semaine l'histoire de Léa Church. C'est une basketteuse américaine qui, depuis toute petite, je pense qu'elle devait avoir un doudou comme dans son lit, c'était un ballon de basket. C'était vraiment sa vie. Et elle a grandi dans une famille chrétienne, son père était missionnaire, prédicateur reconnu, sa mère a fait l'école à la maison, un peu à l'américaine, voilà, une famille. Et elle a réussi à réaliser son rêve, elle a été appelée pour jouer dans une équipe universitaire. Et elle a eu des résultats vraiment encourageants et assez énormes. Et voilà que le coach de l'équipe a changé. Le coach précédent était une chrétienne qui avait des valeurs chrétiennes pour l'équipe et qui voulait aussi que la cohésion d'équipe, le team building, repose sur des principes qui soient corrects et sains. Et voilà que ce nouveau coach qui arrive propose de nouvelles manières de gérer la cohésion d'équipe et avec des activités et des actions qui, elles, heurtaient ses propres valeurs et sa foi. Et elle s'est posé la question de savoir ce qu'elle devait faire, continuer ou pas à jouer dans cette équipe. Mais dans ce cas-là, ça voulait dire baisser, renoncer à ses valeurs et à ce en quoi elle croyait ou pas. Alors imaginez le choix compliqué qu'elle a dû faire. Elle a finalement choisi de quitter son équipe de basket, et donc d'arrêter le basket. Et aujourd'hui, elle est entraîneuse pour des jeunes joueuses. C'est assez radical comme choix. Mais cet exemple, je trouve, est un bon exemple pour nous montrer ce que cela veut dire de passer par la porte étroite. Renoncer à soi-même, c'est passer par la porte étroite. Se repentir, c'est passer par la porte étroite. S'humilier devant Dieu et reconnaître que c'est lui qui mérite d'être le Seigneur de ma vie, c'est passer par la porte étroite. Voilà les conditions d'entrer dans le royaume de Dieu. Un deuxième passage nous intéresse, Luc 14, 15 à 24. Donc c'est la deuxième parabole. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit : Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités : Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit : Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Et le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur : Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur : Va sur les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Là encore, dans ce passage, il y a une affirmation au départ. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, dit quelqu'un qui est à côté de Jésus. Et Jésus détourne un peu la réponse et il raconte une histoire pour terminer, là encore, sur quelque chose d'assez tranché. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. C'est pas donc parce qu'on est invité à un festin que pour autant on peut profiter de ce festin. Il faut quand même y aller. Et vous voyez, ces deux passages touchent à un aspect, un point de doctrine qui est important, qui s'appelle l'universalisme. C'est tout simple, à savoir, est-ce que tout le monde est dans le royaume de Dieu, avec l'idée Dieu est amour et donc voilà, les hommes sont sauvés, ou est-ce que ce n'est pas le cas et l'entrée dans le royaume de Dieu est réservée à certains. Et là, on a des textes qui sont clairs sur le fait que cette notion d'universalisme n'est pas biblique et montre que Jésus a bien un enseignement sur le fait que tous ne peuvent pas rentrer dans le royaume, qu'il y aura un jugement final qui aura une conséquence pour ceux qui ne sont pas passés par la porte étroite, ceux qui ont refusé l'invitation au festin. Alors, c'est quelque chose qui, cependant, ce texte nous montre à quel point notre rôle est énorme dans la diffusion et la promotion du message de la bonne nouvelle à nos contemporains. Puisqu'ici, on peut se dire que pourquoi ce maître a fait l'effort d'aller inviter ces gens qui avaient de toute façon des choses plus importantes à faire, mais il l'a fait quand même. Et notre responsabilité aussi de parler de ce trésor que nous avons trouvé en Jésus, parce que des personnes peuvent y répondre. Et je vais préciser ça dans quelques instants. Alors, comment comprendre ce passage ? Un grand festin qu'un invité ne peut pas refuser, puisque ceux qui refusent, là, ils sont très mal vus. Et en même temps, un festin tellement important que, au verset 23, le maître dit à son serviteur, « Oblige-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Alors, c'est quoi cette notion d'obliger d'entrer ? J'aimerais l'aborder parce que c'est une notion qui a parfois été tordue, dont le sens a été tordu, en disant, notamment dans l'histoire de la persécution entre catholiques et protestants, à savoir que on peut contraindre les protestants à se convertir parce que il faut les contraindre à entrer dans la maison. Mais cette phrase en fait ne dit absolument pas ça. Cette phrase dit simplement qu'il y a encore de la place, il y a encore la possibilité de se réjouir et de profiter du festin qui est là. Et donc, dans la mesure où les places et les rues de la ville, on a déjà invité des gens dans les places et les rues de la ville, qui représentent Jérusalem, le peuple juif, eh bien, il est temps d'aller en dehors, le long des haies, c'est-à-dire dans le monde entier, pour que les errants, les sans-refuge, qui vivent sans Dieu et sans espérance dans le monde, puissent aussi participer à ce festin. Autrement dit, ça oblige-les d'entrer, c'est la preuve et de l'amour débordant du maître pour ces personnes à qui il veut faire profiter de ce repas. Mais c'est une contrainte qui est morale et qui ne note en rien la liberté de ceux qui sont invités, puisqu'ils doivent bien venir jusqu'à cette fête par la foi, par l'obéissance, par l'amour. Dieu ne force personne, mais il fait qu'on veut. Dieu ne force personne, mais il fait qu'on veut. Faudrait que j'en parle une heure de plus, mais bon, bref. Deuxième manière de comprendre ce passage, c'est quoi ce grand festin qu'un invité ne peut pas refuser ? Mais pour le comprendre, je vous invite à être attentif à un fil rouge que l'on trouve tout au long de l'ensemble de ce qu'on étudie ensemble aujourd'hui. Dans ce passage, on voit qu'il est question d'un grand festin auquel beaucoup de gens sont invités. L'objectif, c'est que la maison soit remplie. Ok ? Chapitre 13, verset 29, le but de passer par la porte étroite, c'est de se mettre à table dans le royaume de Dieu. Au chapitre 14, verset 1, il est question d'un repas auquel Jésus participe, et il y a de nouveau plein de gens qui sont là, et Jésus a l'occasion de répondre à leurs questions et de les enseigner. Et puis, verset 13, il donne des conseils sur la manière d'organiser un festin, en invitant à organiser ce festin pour des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Alors, pourquoi c'est intéressant de voir ça ? Parce qu'on peut passer beaucoup de temps sur les excuses des invités au mariage, à ce grand festin, sur celui qui avait un mariage à faire, celui qui avait ses bœufs à essayer. Bon, voilà, on peut extrapoler sur les excuses. Mais c'est intéressant de se pencher sur, finalement, leur mauvaise compréhension de ce que ce festin était. Puisqu'en fait, ils ont considéré qu'il y avait d'autres choses plus importantes à faire parce qu'ils n'avaient pas réalisé que ce festin, c'était le festin auquel il fallait absolument participer. C'était le repas auquel on ne pouvait pas manquer. Imaginons qu'on vous propose. Alors, c'est pas des photos que j'ai prises dans ma cuisine. Imaginons que c'est qu'on vous invite à venir manger chez Paul Bocuse à Collonges, qu'on vous invite à manger chez Alain Ducasse, encore chez Georges Blanc, pour citer quelques célèbres chefs. Alors, comme c'est 11h20, c'est pas, je peux me permettre. Voilà. Imaginons que vous êtes invité à l'une de ces tables par quelqu'un qui veut vous faire plaisir. Est-ce que vous dites non? Ah. Ouais, je vais réfléchir. Voilà. Vous pouvez, hein. Moi personnellement, j'irai. Mais le festin que Jésus propose, c'est ça. C'est Paul Bocuse, Georges Blanc, trois gros qui vous voulez, qui sont réunis et qui ont préparé un repas, mais à tomber par terre. Tellement bien qu'en fait, on passe l'éternité à terminer ce qui est dans les assiettes, quoi. Ce festin, en fait, il est pour qui? Puisqu'il y a des personnes qui s'excusent et qui n'y viennent pas. Ce festin, il est pour qui? Ce festin, il est pour ceux qui ont faim. Regardez ce qu'on lit dans Luc 6, 20, 21. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Pour pouvoir venir à ce festin, pour passer par la porte étroite, il faut avoir la conscience du besoin de passer par cette porte étroite, de rentrer dans le royaume, de venir à ce festin et de profiter de ce que le maître a préparé. Il faut avoir faim, il faut réaliser à quel point je suis pauvre. Et la pauvreté, c'est quelque chose de relatif. On est toujours le plus pauvre d'un autre, même si on est milliardaire. Bon, à part Jeff Bezos, mais bon, c'est vraiment très clair dans ce passage que l'insistance porte sur le fait que ces personnes qui refusent de venir à ce festin n'ont pas la bonne perspective sur l'événement lui-même et sur la personne qui organise cet événement. Dans le livre de Donald Orsoon qui s'appelle « Doux et humble de cœur », et c'est Françoise qui m'en a parlé dimanche dernier, je l'ai commencé. Pour que Jésus nous serre dans ses bras, nous devons à tout le moins nous ouvrir à lui. Tout ce qu'il demande, c'est que nous nous ouvrions à lui. Dans Matthieu 11, 28, nous lisons qu'il est question de se qualifier pour communier avec Jésus. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous n'avez pas tout à vous décharger ou à vous ressaisir pour ensuite venir à Jésus. Votre fardeau même vous y qualifie. » C'est énorme. D'un côté, ce savon qui lave notre cœur plus blanc que neige et qui est la condition pour venir vers Jésus. Et en même temps, la condition pour venir vers Jésus, c'est de venir avec notre fardeau, avec notre fatigue et avec tout ce qui peut nous miner et nous plomber et nous tirer vers le bas. Voilà les personnes que Jésus veut inviter à son festin et à qui il veut faire profiter de ce festin. Ce thème de ce banquet, de ce festin, c'est quelque chose qui parcourt toute la Bible. Si on part dans l'Ancien Testament, on voit que souvent les temps de fêtes et de sacrifices spéciaux dans les fêtes juives étaient aussi des temps de réjouissance et de grands banquets avec toutes les personnes qui étaient là, avec le peuple d'Israël. Et puis on voit, si on continue jusqu'à l'Apocalypse, qu'il est question aussi des noces de l'agneau. Et ce sera aussi l'occasion d'un banquet final. Mais ce qui est juste extraordinaire, c'est que ce banquet, il peut déjà commencer pour nous aujourd'hui. Il y avait un célèbre scientifique qui discutait avec une dame et qui lui disait le secret de sa réussite. Apprendre le portugais en se rasant le matin, apprendre l'espagnol pendant son petit-déj, et puis poursuivre ainsi de suite tout au long de la journée de manière très organisée pour pouvoir rentabiliser son temps. Et à la fin, la dame lui dit, et sinon, quand est-ce que vous pensez? Ma vie, et ça me parle parce que ma vie est très remplie et j'enchaîne pas mal de choses au cours d'une journée. Et au final, quand est-ce que je m'assois au banquet du roi? Quand est-ce que je m'assois au banquet ou au festin que Jésus-Christ me propose et que dont chaque jour il veut me réjouir? Est-ce que je fais comme David, qui dans le psaume 23 disait quoi? Tu dresses devant moi une table et qui disait « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et son festin, c'était ça, tous les jours, de se souvenir que le bonheur et la grâce réjouissaient son cœur et que de se souvenir de l'amour de Christ. Je termine par une dernière lecture en revenant à ce contexte de traverser les villes et les villages et d'aller vers Jérusalem. Dans Luc 13, 31 à 35. Ce même jour, les pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Et Jésus répondit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. » Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une foule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Jésus annonce sur Jérusalem tout l'inverse de ce qu'il veut faire pour le royaume de Dieu. Il veut que le royaume de Dieu soit une maison remplie, soit une maison de fête. Et qu'est-ce qui va se passer pour Jérusalem qui le rejette? L'inverse, cette maison-là va être laissée déserte. Autrement dit, Dieu va se détourner du peuple juif pour s'adresser de manière universelle à toute la terre. Mais ce qui est très fort là-dedans, c'est que Jésus, alors qu'il est en voyage vers Jérusalem, annonce et rappelle le but de son voyage. Il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Alors qu'il vient de donner des conseils sur la manière de rentrer dans le royaume et finalement de participer à un festin énorme, lui-même explique qu'il va à Jérusalem pour la fête de Pâques, mais qui va être sa fête, si on peut le dire ainsi. Il va à Jérusalem parce qu'en fait, il va être mis à mort. Et il accepte de réaliser justement ce qu'il annonce, à savoir une inversion. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Celui qui s'humilie sera exalté, celui qui s'exalte sera humilié. Que fait Jésus-Christ en allant à Jérusalem? Il y va pour être humilié. Il y va pour être le dernier. Et tout cela pourquoi? Pour que nous puissions passer par la porte étroite, pour que nous puissions participer à ce banquet, à ce festin extraordinaire. Je ne suis pas capable de passer par la porte étroite. Je ne suis pas capable de me repentir, de m'humilier, de faire toutes les choses qu'il faudrait faire pour pouvoir rentrer dans la salle du festin, être autorisé à participer à ce festin. Mais parce que je ne suis pas capable et que je viens vers Jésus en lui disant et en reconnaissant mon incapacité, grâce à ce qu'il a fait à la croix, parce que lui a accepté d'être le plus incapable qui soit, eh bien voilà que je peux rentrer dans sa présence. Je peux passer par la porte étroite. Je peux participer à ce banquet. Et je peux me réjouir avec celui qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui est ressuscité. Waouh, vous avez vu ce que Luc nous propose? À la fois, très clair sur le fait que Jésus ne brade pas le salut, ne brade pas l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais en même temps, nous propose d'y avoir accès par une pure grâce et parce que son cœur déborde d'amour et souhaite que nous puissions rentrer dans ce festin. Alléluia. Et puis je peux dire pour terminer, bon appétit.